Vous êtes sur RTL.
Midi 30.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Et donc 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débats, d'opinions avec les auditeurs et également d'informations avec Amandine jusqu'à 13h.
Bonjour à tous et à la une des moines qui tentent d'incendier des antennes relais. Un jeune de 16 ans mort poignardé en Seine-Saint-Denis. Et puis c'est une info RTL, la gare du Nord ne sera pas transformée en centre commercial, la SNCF renonce.
Aujourd'hui, 80-90% de l'espace est occupé par seulement 20% des garçons. Ce sera un de nos sujets après les infos vers 12h40. Les cours d'école, faut-il dégenrer ces cours d'école? Et puis, je vous l'ai dit, c'est la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. À quand un traitement? Est-ce qu'on peut espérer vaincre la maladie d'ici 10 ans?
La question du jour sur RTL, faut-il privilégier les jeux mixtes, dans les cours de récréation? Et vous dites oui à 31%, non à 56%. La météo, c'est avec vous, Peggy Broche. Bonjour Peggy.
Bonjour Amandine.
Grand beau temps au nord, pas terrible au sud.
Et oui, ça se dégage bien sur toute la moitié nord pour cet après-midi. C'est plus mitigé au sud, de nombreux nuages, quelques rares averses et un ciel toujours bien chargé avec des précipitations sur les Pyrénées et même quelques flocons au-dessus de 2200 mètres. Tout ça sous des températures globalement comprises entre 19 et 23. 3 degrés jusqu'à 26 près de la Méditerranée.
La suite du programme, ce sera à 13h. Merci Peggy.
RTL Midi.
Et d'abord donc, cette histoire peu banale. Des moines qui tentent d'incendier des antennes relais. C'est ce qui s'est passé dans le Beaujolais la semaine dernière. Les deux hommes, Frédéric Perruche, ont même été interpellés en flagrant délit.
Exactement, les deux religieux âgés de 39 et 40 ans ont été arrêtés par les gendarmes sur la commune d'Ancy au pied de l'antenne relais qu'ils s'apprêtaient à incendier. Après avoir déjà avec succès cette fois mis le feu à une autre antenne 5G à proximité, provoquant quelques dégâts mardi soir dernier. Un acte militant assez inédit pour deux moines d'un couvent traditionnaliste de Villiers-Morgon, plutôt adepte du silence, de la contemplation et de la prière. Frère Jean-Marie, encore choqué, porte-parole officieux de la communauté.
Oui, bien sûr, on condamne. Et c'est une erreur monumentale, ils n'auraient jamais dû faire cela. Ils n'ont eu aucun mandat pour faire ça et ils ont fait ça d'eux-mêmes et ils le regrettent maintenant, je pense. Il n'y a pas de volonté de s'insurger contre les antennes relais, non, c'est ça. C'est pas notre combat.
Ça a été la consternation quand vous l'avez appris?
Oui, la consternation totale, oui. On ne s'attendait pas du tout à ça.
C'est de la violence, c'est quelque chose que vous condamnez, cette violence-là?
Oui, c'est ça, c'est pas notre rôle.
Les deux religieux ont été placés sous contrôle judiciaire et l'enquête se poursuit pour déterminer s'ils sont impliqués ou pas dans d'autres affaires similaires.
Frédéric Perruche à Villiers-Morgon, dans le Rhône, pour RTL. Cédric Jubilard, lui, reste en prison. La cour d'appel de Toulouse a rejeté aujourd'hui sa nouvelle demande de remise en liberté, la troisième en trois mois. L'époux de Delphine Jubilard est, on le rappelle, mis en examen pour meurtre sur conjoint et incarcéré depuis le 18 juin dernier.
Un adolescent de 17 ans, toujours en garde à vue ce midi au Lila en Seine-Saint-Denis.
Et sur place, on va retrouver Nathan Bocard. Bonjour Nathan.
Bonjour.
Ce jeune homme est soupçonné d'avoir tué un autre jeune, âgé lui de 16 ans, d'un coup de couteau dans la poitrine.
Oui, les faits se sont déroulés hier soir. La victime marchait dans la rue avec deux amis quand un autre adolescent arrive à son niveau et le poignarde au cœur. Conduit à l'hôpital, le jeune homme meurt peu de temps après. Âgé de 16 ans, il habitait à Bagnolet, à quelques centaines de mètres de la scène de crime. Et selon cette proche de la famille, c'était un garçon gentil et avenant.
Souriant, poli, il fallait discuter avec lui. Il répondait d'une manière mais vraiment sympathique et tout. Et la maman, j'ai discuté avec elle aussi, mais je présente mes condoléances et je dis aux parents de faire attention et de discuter aussi avec leurs enfants par rapport à tout ce qui se passe maintenant et d'éviter la violence, c'est tout. Pour protéger nos enfants et les enfants des autres aussi.
Elle décrit la rue où a lieu l'agression comme un endroit dangereux.
Les jeunes, ils se permettent de nous agresser entre les voitures. Le passage Floréal, c'est le pire des passages. Il n'y a pas de lumière. Et malheureusement, ce qui s'est passé hier, ça peut se passer souvent. Il faut qu'il y ait plus de policiers, c'est tout. Parce que là, on est en insécurité et c'est horrible, 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 horrible.
L'agresseur, lui, a été interpellé hier vers 20h alors qu'il tentait de fuir à vélo. Son mobile est encore inconnu, mais ni lui ni sa victime n'étaient connus des services de police. L'enquête est confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis.
Nathan Bocard au Lila pour RTL. C'était il y a tout juste 20 ans, souvenez-vous, le 21 septembre 2001.
Instantané RTL 10h37, une très forte explosion d'origine indéterminée a secoué ce matin l'usine pétrochimique.
L'explosion AZF. De l'usine AZF à Toulouse, 31 morts et des milliers de blessés qui, 20 ans après, ont toujours pour certains des séquelles. C'est le cas notamment de Patricia Benita. Elle était ce jour-là en voiture avec ses deux enfants tout près de l'usine.
Quand il y a eu cette détonation énorme, on n'a rien compris, on était paniqués, on se demandait ce qui se passait. La voiture s'est affaissée, on a été pulvérisés là, dans cette voiture, du sang de partout, enfin, la terreur, la terreur. J'avais mes deux enfants, mon fils aîné nous a évacués. Il a pris le petit dans les bras, je l'ai couvert, et lui, le petit, il ne parlait plus. Horrible, horrible. On a connu la guerre à Toulouse. Et voilà, maintenant ça fait 20 ans de ça, mais on est toujours suivi chez les médecins parce qu'on a tous des problèmes auditifs. Je m'en souviendrai toute ma vie et puis je m'en souviens tous les jours. Et vous savez, en portant les appareils, les acouphènes qui vous prennent la tête, voilà.
Un témoignage recueilli pour RTL par Patrick Hisson. Après Xavier Bertrand, c'est au tour de Marine Le Pen d'appeler Emmanuel Macron à prendre la parole dans l'affaire des sous-marins avec l'Australie en déplacement dans l'Isère. La candidate du Rassemblement National dénonce l'effondrement de notre diplomatie.
Je pense que ce silence exprime une gigantesque gêne. On assiste avec Emmanuel Macron à l'effondrement de notre diplomatie. En réalité, Emmanuel Macron va d'échec diplomatique en échec diplomatique. Personne ne peut imaginer que nous n'ayons pas eu connaissance de la volonté de l'Australie d'abandonner et de rompre ce contrat dans des conditions qui sont des conditions brutales. Il faut que l'on sorte du commandement intégré de l'OTAN, car je crois que la démonstration est faite que nous n'avons absolument plus rien à y faire. Enfin, il faut qu'il agisse. Il ne faut pas qu'il se contente de supprimer une réception Ferrero avec les ambassadeurs. Vous voyez, ce n'est pas suffisant, il me semble.
Marine Le Pen au micro RTL de Serge Puyot.
Tout à fait autre chose avec le salaire des fonctionnaires revu à la hausse.
Ceux qui gagnent le moins vont toucher 37 euros de plus dès le 1er octobre. Bonjour Anaïs Bouissou.
Bonjour.
C'est la conséquence directe de l'augmentation du SMIC qui est prévue justement le mois prochain.
Oui, le SMIC va mécaniquement augmenter le 1er octobre prochain. Ça concerne les salariés du privé et c'est 35 euros de plus par mois pour un salarié à temps plein. Le risque, c'était donc qu'en parallèle dans le public, les fonctionnaires les moins bien payés se retrouvent en dessous du SMIC, encore moins bien rémunéré que le minimum légal dans le privé. Ça aurait fait mauvais genre. Le ministère de la fonction publique vient donc de corriger le tir, d'annoncer des augmentations pour les plus bas salaires. Et ils sont quand même 1,2 million d'agents concernés. C'est un soulagement pour Luc Farré, le représentant UNSA.
C'est indispensable que le gouvernement ait choisi d'augmenter les bas salaires aujourd'hui dans la fonction publique. L'inflation a repris en France dans notre pays. Pour cela, nous sommes au moins satisfait du fait que nous avons été entendus pour les agents les moins rémunérés.
Ces agents, ce sont des personnels à l'accueil des mairies, des agents qui nettoient les couloirs de l'hôpital, des jardiniers, des éboueurs. Ils toucheront sur un an 420 euros de plus.
Anaïs Bouissou du service économie de RTL. C'est une info RTL, je vous le disais, la gare du Nord ne sera finalement pas transformée en centre commercial. La SNCF abandonne en effet le projet géant de rénovation. Bonjour Arnaud Touche.
Bonjour.
C'est vous qui nous révélez cette information.
Oui, la décision devrait être actée très rapidement par la SNCF et l'immense projet de rénovation, notamment le nouveau centre commercial de la gare du Nord, serait donc bel et bien abandonné. Ce projet avait déchaîné les passions et notamment donné lieu à des frictions parfois fortes entre la SNCF, la ville de Paris et la filiale d'immobilier commercial du groupe Auchan qui devait exploiter justement ce nouveau centre commercial. Le projet, il était ambitieux avec la création de dizaines de boutiques et une rénovation d'une grande partie de la gare, la plus fréquentée d'Europe. Pour rappel, la gare du Nord, c'est 700 000 passagers par jour, 900 000 à l'horizon 2030. Cette rénovation, elle a fait l'objet d'une longue bataille juridique, notamment de la part de la mairie de Paris, qui jugeait ce projet surdimensionné et pas adapté à la ville. Et selon un acteur proche du dossier, la SNCF aurait eu connaissance d'un dérapage au niveau du coût du projet. Il était évalué au départ à 600 millions d'euros. Finalement, il s'élèverait aujourd'hui à plus d'1,5 milliard d'euros. Et la nouvelle gare du Nord n'aurait pas été achevée pour les JO de 2024.
La gare la plus fréquentée d'Europe. Merci à vous Arnaud. Paris 2024, justement, c'est dans moins de 3 ans. Et sachez-le, Pascal, vous pourrez, nous pourrons tous contribuer à la bonne organisation de ces Jeux. Bonjour Isabelle Langer.
Bonjour.
Ce sont 45 000 volontaires qui vont être recrutés.
Oui, précisément, 31 500 pour les JO et 13 500 pour les Paralympiques. Alors, pour postuler, il faudra avoir au moins 18 ans au 1er janvier 2024, mais il n'y a pas de limite d'âge. Les organisateurs espèrent d'ailleurs battre le record de Tokyo où le doyen des bénévoles avait 91 ans. Le profil type, eh bien justement, il n'y en a pas, comme l'explique Michael Alozio, le directeur de cabinet du COJO.
C'est un programme qui doit nous permettre de refléter toute la diversité des gens qu'on a envie d'embarquer. Vous êtes étudiant, vous êtes retraité, vous êtes salarié. On a beaucoup de demandes de gens qui veulent déjà poser leur congé pour être volontaire pour les Jeux. Il n'y a pas de profil type. Venez en tant que volontaire, vivez une aventure extraordinaire à nos côtés.
Alors, pas de profil type, mais si je postule, je peux faire quoi?
Eh bien, l'accueil des athlètes ou du public, le soutien aux services médicaux pour les premiers secours, ou encore être l'une des petites mains indispensables à la bonne tenue des épreuves. Par exemple, en natation, pour déplacer les paniers ou les compétiteurs déposent leurs survêtements. Le panel des missions est large, il y en a 75 en tout, de quoi trouver votre place. Forcément, les territoires concernés par l'accueil des épreuves seront favorisés pour le recrutement. La plateforme pour déposer votre candidature sera, elle, ouverte en février 2023. Je suis sûre, Pascal, que ça vous intéresse.
Bien évidemment.
Merci Isabelle. Isabelle Langer du service des sports d'RTL.
Une pause et dans un instant, le premier débat d'RTL Midi. Faut-il dégenrer? Le mot n'est pas très joli.
Mais justement, on va expliquer tout ça.
Faut-il dégenrer nos cours de récré? Créer des cours plus égalitaires? Aujourd'hui, 80 à 90% de l'espace est occupé par seulement 20% des garçons, paraît-il. Donc on en parle dans une seconde.
RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Bah des fois les garçons ne font pas trop de passes. Des fois on a envie de jouer, bah ils prennent trop de place. Maintenant on se connaît tous et bah ils acceptent.
Moi j'aime pas jouer avec des garçons, je préfère jouer avec mes copines.
Et ces enfants, ce sont les élèves de l'école Saint-Exupéry à M, près de Roubaix. Ça vous fait sourire, Pascal. Depuis la rentrée, ils expérimentent ce qu'on appelle la cour de récré dégenrée. Bonjour Sophie Orange.
Bonjour Amandine, bonjour Pascal, bonjour à tous.
Vous avez mené l'enquête pour RTL sur ce phénomène. Faut-il dégenrer nos cours de récré? C'est le premier débat d'RTL Midi. Alors, avant de rentrer dans le détail avec vous Sophie, arrêtons-nous quand même sur ce mot dégenrer. Ça fausse d'ailleurs un
Il
peu
est
le
atroce.
Débat. Oui, c'est atroce. Oui, oui.
Oui, c'est atroce. Personne ne comprend vraiment ce que ça veut dire. Et du coup, je pense que ça fausse complètement le débat, même l'intérêt du sujet. Ce terme est un repoussoir. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, dégenrer? Ça vient donc de genre. Et genre, c'est un concept scientifique américain inventé dans les années 70, qui est donc arrivé en France, qui résume, si vous voulez, toutes les questions autour de la domination masculine sur la domination féminine. Donc c'est un terme qui est devenu très connoté, utilisé ensuite au moment du mariage pour tous. Voilà, c'est devenu politique, connoté. Voilà, ça n'a rien à faire, à mon avis, dans une école. Donc plutôt que de dire école, cours de récré dégenré, peut-être vaut mieux parler de cours de récréation égalitaire, cours de récréation partagée, cours de récréation apaisée. Parce que quand on intitule ce terme cours dégenré, on fuit, on n'a pas envie de s'intéresser au sujet très clairement.
Bon, combien d'écoles sont concernées? Ce qu'on sait, ce n'est pas juste un truc de bobo écolo, comme diront certains.
Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la ville de Grenoble, maire écologiste, de la ville de Lyon, maire écologiste, où un petit garçon se plaignait qu'une cage de foot ait été enlevée dans une école. Non, il y a très nombreuses villes, grandes, petites, moyennes, des départements qui s'intéressent à ce sujet. On peut citer le Haillan près de Bordeaux, la Gironde qui va créer 12 nouveaux collèges. Et dans ces 12 nouveaux collèges, les cours sont pensés en amont pour être plus égalitaires, plus partagés. On peut citer la Couronne près d'Angoulême. J'ai cité Mérignac, voilà. En Ille-et-Vilaine aussi, depuis un an, il y a 3 collèges qui ont une cour réaménagée. Donc, ce n'est pas un truc de bobo de ville. C'est aussi dans des endroits plus ruraux, plus loin des villes. Voilà, c'est vraiment une vraie réflexion aussi, surtout depuis les municipales, où il y a sans doute aussi des nouvelles équipes qui sont arrivées au pouvoir. Plus de femmes aussi, des équipes plus jeunes qui sont sans doute plus sensibles aussi à l'égalité hommes-femmes dès la maternelle, dès le primaire.
Et la difficulté, c'est de savoir ce qu'il y a dans ces cours d'école. Parce qu'avant, effectivement, on jouait. Ouais, paraît-il au football, mais j'ai l'impression que les ballons dans les cours de foot, dans les cours de récréation, ça fait bien longtemps qu'il n'y en avait plus de ballons. Et là, j'entends dire qu'il y a des copeaux ou des potagers. Mais quel est, en quoi est-ce dégenré, même si le terme est horrible, en quoi est-ce dégenré de mettre des potagers ou des copeaux?
Je vais vous raconter une histoire qui a 40 ans, puisqu'elle me concerne. Je faisais partie des filles qui avaient envie de jouer au foot dans la cour de récré de mon école. Eh bien, les garçons m'autorisaient à condition que je reste dans les cages. Les filles doivent être invisibles, en fait. Elles doivent être invisibles parce qu'elles dérangent quand elles jouent au foot. Et malheureusement, je pense que ça n'a pas beaucoup changé. Un potager dans une cour de récré, une table de ping-pong attire filles et garçons. Et puis aussi des garçons qui n'ont pas envie de jouer au foot. Sauf que comme le terrain de foot, il est au milieu. Regardez toutes les écoles classiques qu'on connaît avec une grande cour pleine de bitume. Le terrain de foot est au milieu. Et donc les garçons qui ne veulent pas jouer au foot, eh ben, ils sont un peu coincés. Et les filles qui n'aiment pas
le
foot.
Il n'y a pas de ballon, Sophie.
Il n'y a pas de place pour
Si,
il y a des ballons.
Souvent, les ballons,
c'est des ballons en mousse.
si. Ah bon? Désormais, oui. Ce sont des ballons en mousse.
Parce que j'ai l'impression que les ballons sont généralement dangereux et que ça fait bien longtemps.
Moi, j'ai un fils en CP qui part avec son ballon en mousse le matin pour aller jouer dans la cour de récré.
C'est les ballons en mousse. Si vous voulez, le problème, c'est pas qu'il faut plus jouer au foot dans les cours de récréation. Le problème, c'est que ce terrain de jeu de ballon, il doit pas être au centre à occuper toute la cour. C'est ça que disent.
Donc on met autre chose.
Par exemple,
on met des potagers.
On garde un terrain de jeu avec des ballons. C'est ce que fait le cabinet Larob qui accompagne des collectivités, qui réfléchit en amont avec les architectes. Il faut réfléchir avec la commune quand c'est une école primaire, avec le département quand c'est un collège. Qu'est-ce qu'on veut faire dans la cour? On écoute les enfants, bien sûr, quels sont leurs besoins. Donc l'idée, c'est pas d'interdire le foot à la récré ou les panneaux de basket, c'est de les mettre ailleurs qu'au centre. On les met sur le côté et au centre, on peut mettre en fonction des âges d'autres choses, effectivement des petits jardins potagers. Et puis il y a des enfants aussi qui ont envie de lire, qui ont envie d'être tranquilles à la récré et qui n'ont pas envie forcément de jeux physiques où tout le monde crie. Donc voilà, c'est repenser la cour dans son ensemble, pas forcément avec ce combat ou en tout cas cette question fille-garçon qui est essentielle mais qui ne doit pas masquer les autres besoins aussi des enfants en cours de récré. Tout le monde n'a pas besoin de se défouler. Et d'ailleurs, je lisais des mémoires avec des sociologues qui ont interrogé les enfants, des parents, et des parents disent mon fils, il passe ses 2 heures de récré à l'heure du déjeuner à jouer au ballon. Le soir, il est complètement déchaîné, surexcité. Je préférais que ce soit une récré plus calme. Voilà, donc c'est pas que filles-garçons.
Et on parlait tout à l'heure de l'école d'Em près de Roubaix. Oui. Et en fait, le maire explique qu'il est dans une zone où il faut que les gens apprennent à vivre ensemble. C'est mieux vivre ensemble, disait-il, dès l'école. C'est comme ça qu'on leur apprend.
Bah en tout cas, vous avez l'air convaincue, et Sophie et Amandine, manifestement.
Moi, je n'étais pas convaincue au départ ce matin, et en entendant les arguments des uns et des autres.
Moi, si vous voulez, je pense que ce sont les sociologues, les psychologues, tous ceux qui ont étudié cette question. Ça fait 40 ans qu'il y a des mémoires, des thèses, il y a des rapports de l'UNICEF en 2018 qui disent ça, qui disent que voilà, quand les filles sont reléguées dans les coins, dans la cour de récréation, eh bien, ça veut dire que les enfants intègrent ce sexisme sous l'œil d'adultes qui cautionnent, puisque les surveillants cautionnent. Et donc, ça a des conséquences après dans la vie d'adulte, sur la place de l'homme, dans l'entreprise, dans le couple, dans le travail, etc., etc.
Sophie, je vais vous remercier, mais je vais vous demander qu'est devenue cette carrière de footballeuse entamée dans les cages.
Écoutez, quand
est-ce
on
qu'elle
vous dit,
a perduré
alors, elle n'a pas perduré parce que je me prenais des boulets de canon que je ne savais pas arrêter.
Ouais, ça c'est pas bien.
Donc j'ai changé de sport.
Ça, je trouve ça assez scandaleux. Vous avez parfaitement raison. Il est 12h49 et on va parler d'Alzheimer, qui est un sujet extrêmement grave. Dans une seconde, on va être avec Christelle Bardet, qui a écrit « Quand maman plantait des brosses à dents ». Et sa maman souffrait d'Alzheimer et elle nous raconte comment elle l'a accompagnée.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Mon mari avait une activité libérale, et là, en fait, en l'espace de 2 mois, bah, vous basculez de ce schéma-là à non, c'est une vraie maladie dégénérative, et donc il arrête de travailler, il arrête de conduire, il perd en quelques mois ce qui fait véritablement sa vie.
Comme Franck, le mari de Claudine que vous venez d'entendre, ils sont chaque jour en France 600 à découvrir qu'ils sont atteints de la maladie d'Alzheimer. Ça fait un nouveau cas toutes les 3 minutes, c'est colossal. La maladie touche aujourd'hui plus d'1 million de personnes dans notre pays, plus de 3 millions si on compte les aidants, l'entourage, hein, pour qui aussi la vie bascule. Alors où en est-on? Pourra-t-on guérir de cette maladie dans 10, 15 ou 20 ans? C'est le deuxième débat d'RTL Midi à l'occasion de cette journée mondiale Alzheimer. Bonjour Bruno Dubois.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de l'Institut de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. En préparant l'émission, j'ai regardé les articles de presse. En 2019, il y a 2 ans, vous disiez « enfin du positif ». En 2020, l'année dernière, vous disiez « on tient peut-être le chemin de la solution ». Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'on pourra guérir d'ici 10 ou 15 ans de cette maladie?
Écoutez, c'est difficile de s'engager formellement sur une date, mais ce qui est clair, c'est qu'on connaît le chemin maintenant. C'est très clair maintenant. On connaît les lésions de la maladie, on a des médicaments qui bloquent les lésions de cette maladie. Maintenant, il reste à montrer qu'en bloquant les lésions de cette maladie, on arrive à guérir les symptômes, ou tout au moins à empêcher leur développement. Alors, le point fondamental, c'est qu'on se rend compte que pour arriver à cet objectif, il faudra, dans l'avenir, recruter des patients le plus tôt possible, dès les premiers symptômes. Et c'est toute la difficulté, c'est-à-dire qu'il va falloir maintenant aller vers un diagnostic précoce.
C'est quoi un premier symptôme ?
Mais voilà, toute la difficulté, c'est qu'il y a une sorte de confusion entre la plainte de mémoire, qui est un phénomène banal. Je suis sûr, cher monsieur, que de temps en temps, vous vous plaignez de votre mémoire et vous vous
hélas,
dites... Mais voilà.
C'est les noms dont on ne se souvient pas. Quand on cherche un nom, c'est très frappant quand on commence à avoir de l'âge.
Voilà, bienvenue au club. Eh bien, quand on a ces symptômes-là, évidemment, on s'inquiète. Mais ça n'a rien à voir avec la maladie d'Alzheimer. C'est que la difficulté, ça va être celle-là. C'est de faire la part entre le bon grain et l'ivraie. Mmh.
Vous voyez, qu'est-ce qui doit inquiéter, du coup, docteur ?
Eh bien, c'est lorsque les troubles que vous présentez sont suffisamment sérieux pour que votre entourage se dise non, ça, là, il a franchi un palier. Et donc là, il faut consulter, car c'est à ce moment-là que l'on peut d'abord mettre en place une sorte de prise en charge, une prise en soin de qualité, et aussi dans l'avenir, c'est à ce moment-là qu'il faudra intervenir. Car nous avons maintenant des médicaments qui, comme je vous l'ai dit, bloquent les lésions, bloquent le développement, et donc vont probablement pouvoir empêcher qu'on s'aggrave ou qu'on rentre dans une vraie maladie sérieuse avec tout son cortège de troubles et d'inadaptation sociale.
Monsieur Dubois, quel âge moyen? L'âge moyen de celui qui est malade?
Mais écoutez, c'est le paradoxe de cette maladie, c'est qu'elle augmente en fréquence avec le vieillissement naturel de la population. Elle n'est pas due à l'âge, mais elle est liée à l'âge. C'est comme la cataracte, si vous voulez.
Non, mais est-ce qu'à 50 ans, on peut être victime d'Alzheimer?
Mais voilà, mais bien sûr, on peut être victime à 50 ans, c'est rare. On peut l'être à 65 ans. 60 ans, c'est un peu moins rare. 70 ans, c'est encore moins rare. Et 75-80 ans, ça devient fréquent. Puisque à 80 ans, on considère que 20% des gens ont la maladie. C'est pas... C'est
80 hommes ou femmes, de manière indéterminée?
À peu près pareil, un peu plus les femmes.
On a beaucoup parlé de l'ARN messager avec le vaccin contre le Covid. Est-ce que ça, c'est une piste pour Alzheimer?
Écoutez, les technologies qui est actuellement développées dans ces médicaments qu'on appelle les anticorps monoclonaux ne sont pas fondées sur le principe. Donc, pour l'instant, non. Mais on verra dans l'avenir s'il y a la possibilité de ce côté-là d'utiliser cette nouvelle approche. Pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas à l'ordre du jour.
Merci, Monsieur Dubois, pour ces renseignements, et l'espoir est là. Je vous avais annoncé Christelle Bardet qui serait avec nous. Comme nous sommes un poil en retard, je vous propose que Christelle Bardet, qui est peut-être déjà en ligne avec nous, reste pendant la séquence des auditeurs ont la parole. Et j'ai envie de dire au contraire, puisque Christelle a accompagné sa maman pendant 14 années, et elle va pouvoir dialoguer avec des auditeurs, pourquoi pas avec des gens qui sont dans le même cas qu'elle. Merci. Une pause et nous revenons pour le flash et donc pour ce sujet sur la maladie d'Alzheimer. À tout de suite. RTL.